Vous écoutez Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde. Il est 19h. On se retrouve dans quelques instants pour Europe 1 Sport, mais tout de suite c'est le journal avec Hélène Zeleny. Bonsoir.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Plus de 120 femmes sont tombées sous les coups de leurs compagnons depuis le début de l'année. En cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron est à Dijon, notamment pour rencontrer des magistrats. Dans un instant, témoignage très fort d'une rescapée. La crise à l'hôpital au cœur du vendredi thématique d'Europe 1, crise qui peut induire des erreurs médicales. Dans ce journal, la collecte nationale des banques alimentaires, Kiev toujours en partie privée d'électricité. Nous serons aussi au marché de Noël de Strasbourg qui vient d'ouvrir. Et puis le mondial de foot, France-Danemark, c'est demain. Les Bleus étaient au complet pour l'entraînement de ce soir. Le Qatar est lui éliminé. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors le week-end va débuter calmement mais souvent dans la grisaille. Qui aura du mal à se dissiper en journée sur la moitié nord? Et puis le temps s'annonce plus lumineux au sud et en montagne. Et puis il faut le dire, un retour de la pluie par le nord-ouest demain soir. Météo complète à la fin du journal.
En ce 25 novembre, la lutte contre les violences faites aux femmes est à l'honneur avec pour la première fois des assises contre les violences sexistes organisées à Nantes. C'est là que Charles Guyard a rencontré Morgane, 31 ans, deux enfants. Pour échapper à un mari violent, elle n'a eu d'autre choix que de fuir le domicile conjugal. Malgré la condamnation, cet homme tente de maintenir son emprise.
C'était l'amour fou. Et après, les premiers coups ont commencé lorsque je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et après, ça a été le carnage. Des coups sur les tempes, dans les côtes, sur les jambes. Il me tirait les cheveux par terre. Il essayait de me noyer sous la douche. Et de là, il m'avait étranglée ce jour-là. Vu que mes enfants avaient vu tout ça et que je les voyais hurler, j'ai préféré aller à la gendarmerie directement. Donc, il a pris 12 mois ferme sans aménagement de peine. Il a fait que 5 mois de prison. Au final, il a eu le droit au bracelet. Et là, en septembre, on lui a enlevé le bracelet. Je me sens pas en sécurité parce qu'il n'a jamais respecté le fait de ne plus entrer en contact avec moi parce que j'ai reçu un appel WhatsApp de lui. Je n'ai pas répondu. J'ai été portée plainte. Ça n'a pas servi à grand chose. Il pirate mes boîtes mail, tous mes comptes quoi, internet, pour justement dire tu vois, je suis encore là, je t'embête encore quoi. Je te lâcherai pas. Je me retourne tout le temps, je regarde à droite à gauche, je regarde dans les voitures. J'ai très peur, mon entourage a très peur aussi pour moi parce que je sais qu'un jour il sera là.
Témoignage poignant recueilli donc par Charles Guyard. Cette lutte contre les violences faites aux femmes est aussi l'une des grandes causes du quinquennat. Pour l'occasion, Emmanuel Macron était cet après-midi au tribunal judiciaire de Dijon pour échanger avec des magistrats. Arthur Delaborde, le chef de l'État, a défendu son bilan tout en appelant à maintenir les efforts.
Oui, Emmanuel Macron voulait écouter les acteurs de terrain, connaître leurs attentes. Il ne faut pas relâcher l'effort, leur a-t-il expliqué, tout en soulignant les progrès collectifs réalisés ces dernières années.
Le budget de l'aide aux victimes a augmenté de 115% entre 2016 et 2023 et pour les violences intrafamiliales, sur la même période, de près de 300%. Donc on a mis les moyens tout confondus. Maintenant, il faut continuer.
Le chef de l'État a notamment promis des créations de postes supplémentaires pour la justice et les forces de sécurité intérieure. Il a aussi annoncé qu'un nouveau dispositif baptisé Pacte Nouveau Départ allait être expérimenté en Côte d'Or pour aider les femmes victimes de violences à quitter le domicile conjugal. Il s'est aussi dit favorable à la mise en place de juridictions spécialisées.
On en a besoin. Il faut être très ambitieux et mettre le maximum de moyens. Il faut former encore plus les juges des enfants, les juges aux affaires familiales sur ce sujet, sur cette matière. Et il faut sans doute des pôles d'expertise qu'il va falloir développer.
Ce projet de juridiction spécialisée dans le traitement des violences intrafamiliales est en ce moment au cœur d'un travail parlementaire dont les conclusions seront rendues le 28 mars prochain.
Arthur Delaborde à Dijon pour Europe 1. Emmanuel Macron a aussi profité de sa visite pour réagir à l'enquête du parquet national financier sur le rôle des cabinets de conseil comme McKinsey dans les campagnes de 2017 et de 2022.
J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges. Ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Je crains rien. Et après, vous savez, je m'en suis déjà expliqué des centaines de fois, donc ma réaction ne va pas changer. Moi, je ne sais pas. J'ai vu simplement le communiqué. Personne ne m'a écrit, personne ne m'a appelé. Donc, je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question d'un cabinet de conseil. Je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
Emmanuel Macron, qui est aussi revenu sur le cas des soignants non vaccinés. Ce n'est pas un choix politique, dit-il, mais une décision scientifique. Hier soir à l'Assemblée, ambiance électrique autour de cette question, avec notamment la sortie du député centriste Olivier Servat, qui a lancé « Tu vas la fermer » à un autre élu. Les députés Renaissance qui veulent une sanction s'en remettent au bureau de l'Assemblée. Depuis ce matin, Europe 1 consacre son vendredi thématique à l'hôpital avec cette question « Comment ça va la santé en France ? La réponse ne vous étonnera pas, mal. Manque de moyens, sous-effectifs, services saturés, la liste est longue. Et parmi les conséquences graves, le risque d'erreur médicale. Constat de nombreux soignants comme Pierre, ce jeune interne accepte de raconter une erreur qu'il a lui-même commise.
Premier stage de gynécologie. Je me suis retrouvé la première semaine à ne pas savoir faire les actes de base, en garde, dans des secteurs que je ne maîtrisais pas. Il y a une formation de 1 mois avant de prendre des gardes seules, formation que je n'ai pas eue. Comme dans de très nombreux centres hospitaliers, il n'y avait pas assez de médecins pour pouvoir encadrer bien les internes. Lors de ma seconde garde, je me suis retrouvé seul face à une dame qui saignait, une dame enceinte, et je n'ai malheureusement pas demandé son groupe sanguin. Ça peut avoir des répercussions quand on a un certain groupe sanguin sur les prochaines grossesses. Ces répercussions peuvent être prévenues par un traitement injectable qui est simple. Je ne l'ai pas fait. Quand mon chef m'en a parlé, il m'a dit tout simplement « Laisse tomber, on verra bien et de toute façon ça va tomber dans l'oubli ». Le manque de temps de la part des médecins a fait que je me suis retrouvé dans une situation où j'ai pu mettre en danger la vie d'une patiente.
Un jeune interne interrogé par Guillaume Dominguez. Tous les reportages de cette journée thématique sont à retrouver sur notre site europe1.fr. Hommage à Vanessa, violée et tuée à 14 ans à Tonneins dans le Lot-et-Garonne. Les rideaux de fer sont baissés pour la marche blanche qui se tient en ce moment en présence des parents de l'adolescente. Elle sera inhumée à Grenade, en Espagne. Froid glacial en Ukraine et près de la moitié des habitants de la capitale Kiev sont encore privés d'électricité ce soir à cause des frappes russes. Parmi eux, ce Français, Jérémy Delacruz, qui habite dans la banlieue de Kiev et que Johan Tritz vient de joindre sur son portable.
On n'a plus d'électricité. Ceux qui ont des maisons avec une cheminée, ils coupent du bois et puis ils se chauffent avec du bois. Le plus gros problème, en fait, c'est que le réseau mobile ne fonctionne plus dans notre région. On peut plus passer d'appels, on peut plus aller naviguer sur Internet, etc. Alors, comment je fais pour vous parler? En branchant un groupe électrogène sur notre système électrique de notre maison, le routeur avec la fibre fonctionne. Mais le problème, c'est que le groupe électrogène, c'est une consommation exorbitante. Au mois, ça fait plus de 600 euros de carburant. Mais c'est vrai que la situation est très compliquée parce qu'en fait, sans électricité, on ne peut rien faire. C'est-à-dire, on est vraiment en mode préhistorique, quoi.
Quant à Vladimir Poutine, il a rencontré pour la première fois des mères de soldats. Tout à l'heure, il leur a dit partager leur douleur et les a appelés à ne pas croire les mensonges sur l'offensive en Ukraine. Cette information, Europe 1, les deux derniers migrants de l'Ocean Viking, encore accueillis sur la presqu'île de Gien, ont été expulsés ce soir. Ils sont dans l'avion qui les ramène au Bangladesh. Il est 19h08 sur Europe 1. Ne bougez pas dans un instant, le coup d'envoi de la collecte des banques alimentaires.
Europe 1, le journal, Hélène Zélani.
Vous les verrez sans doute si vous faites vos courses ce week-end dans un supermarché. Les 130 000 bénévoles des banques alimentaires. La collecte nationale commence en effet aujourd'hui dans les quelques 9 000 points répartis dans toute la France. Pâtes, riz, huile, petits pots. Objectif environ 23 millions de repas. Quentin, 21 ans, donne malgré sa propre situation précaire.
J'ai donné des conserves, bon, c'est un peu la chose un peu basique, je puis dire. J'ai pris un aliment pour les enfants, parce que ça c'est vrai quelque chose qui est souvent demandé et qui n'est pas beaucoup donné. Et puis j'ai pris des pâtes, voilà, quelque chose de classique. Après je suis au SMIC, mais la chance un peu aussi que mes parents m'aident financièrement, donc on va dire que je pense que je ne suis pas le plus à plaindre, on va dire. Quels que soient les revenus qu'on a en temps de crise économique, plus que jamais il faudrait du coup plus être solidaire avec les plus démunis. Donc pour moi ça passe aussi en priorité pour pouvoir faire des dons, et c'est tout à fait naturel.
Propos recueillis par Margot Faudéré. Ça y est, les marchés de Noël ouvrent dans de nombreuses villes et surtout le plus célèbre d'entre eux, celui de Strasbourg. 2 millions de visiteurs attendus. Mélina Fachin, vous êtes sur la célèbre place Kléber devant l'immense sapin. Malgré la crise énergétique et l'inflation, cette 452e édition promet d'être réussie.
Oui, je suis effectivement au pied du grand panneau de 30 mètres qui vient il y a quelques instants de s'illuminer sous les applaudissements de la foule massée ici. Et effectivement, c'est superbe, la magie opère toujours pour les visiteurs.
Nous sommes du Venezuela, c'est notre première fois ici. C'est merveilleux, magnifique, je n'ai jamais vu ça de ma vie.
C'est un rêve qui se réalise.
Ils se font vraiment appliquer pour faire la déco, c'est la magie de Noël, c'est unique. Ouais.
10 ans que je suis là, 10 ans que j'adore le marché de Noël de Strasbourg.
Et pourtant, la ville a réduit de 20% ses illuminations cette année, ce qui est énergétique oblige. Les radiateurs sont teintés dans les quelques 300 chalets du marché, mais à l'image d'Anne, vendeuse de marrons glacés, les commerçants sont très enthousiastes.
Je pense qu'on va avoir un merveilleux marché de Noël. Vraiment, vraiment. Tout est ouvert et le parc hôtelier est rempli, les restaurants sont remplis. Enfin, on ressent de nouveau le marché, l'essence même qui revient après quelques années compliquées de Covid. Non, non, on est super contents.
Mélina Fachin, hein, la magie de Noël, mais quelques difficultés de liaison au marché de Strasbourg qui restera ouvert jusqu'à 20h tous les soirs jusqu'au 24 décembre. On passe au foot. Le pays hôte du mondial, le Qatar, dit au revoir à la compétition dès le premier tour. Défaite 3-1 tout à l'heure face au Sénégal, alors que les Pays-Bas et l'Équateur ont fait match nul 1 partout. Et puis avec une incroyable fin de match, l'Iran a battu le Pays de Galles 2-0 et peut rêver à la qualification en huitième. Les Bleus, ils se préparent pour leur match de demain face au Danemark. Dernier entraînement cet après-midi avec un groupe au complet, Cyril de la Morinerie.
Oui, les Bleus étaient tous au rendez-vous à l'entraînement. Information importante, Raphaël Varane, qui n'a plus joué depuis plus d'un mois un match officiel, devrait être titulaire demain. Jules Koundé devrait remplacer à droite Benjamin Pavard qui a été décevant contre l'Australie. Enfin, Kingsley Coman était de retour après avoir ressenti une petite gêne musculaire hier soir. Après 2 défaites de suite contre le Danemark, le sélectionneur ne prend pas ce match à la légère.
On ne va pas faire les beaux, mettre le coq plus haut qu'il n'est. Comme toutes les équipes qui ont gagné leur premier match, on a cette possibilité en gagnant le deuxième d'être qualifié.
Voilà, j'ai pu rencontrer quelques supporters français qui ont fait le déplacement jusque dans la banlieue de Doha pour tenter d'apercevoir les joueurs de l'équipe de France. Mais le stade n'était pas accessible puisque c'est un entraînement à huis clos. Des fans qui se montrent très prudents avant cette rencontre face au Danemark.
Il faut aller la chercher. Les Danois, ils ne sont pas là pour jouer aux cartes. Ils sont là pour gagner le match aussi. Donc il ne faut rien lâcher. Il faut les prendre comme toute équipe. Ouais, 2-1, c'est pas mal. Un but de Giroud à la 18e minute. Allez.
Olivier Giroud, s'il marque demain soir, l'attaquant de 36 ans deviendra le meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry.
Je précise que ce n'est pas vous qui chantez, Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Qatar, coup d'envoi de France-Danemark demain à 17h à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1. D'ici là, dans Europe 1 Sport, à 20h, Angleterre, États-Unis. Les marchés financiers avec Claire Lemaître de boursier.com. Paris termine la semaine proche de l'équilibre.
Oui, on est quasi stable, plus 0,08% à 6712 points ce soir. La séance a été très calme, mais le CAC 40 signe une belle semaine avec un gain de 1% sur les 5 dernières séances. Il a repassé la barre des 6700 points hier et puis surtout, il enchaîne une 8e semaine consécutive dans le vert. Peu de mouvements sur les autres marchés européens. Francfort et Amsterdam sont stables. Londres et Madrid gagnent 0,3. Milan, moins 0,1. Et plus 0,1%. Donc ce soir pour le CAC 40, 6712 points.
Merci Claire Lemaître.